la place à ce cher Eric, qui va nous parler donc des communistes de gauche en 1918. Voilà. Bon courage. Et puis, après un quart d'heure, je passe peut-être 20 minutes. Oui. Et vous aurez droit à la parole, enfin.
Point de vue, il y a un espèce contre-révolution allemande, l'échec de la perspective révolutionnaire qui leur fait suite, constitue une sorte de bifurcation historique. Et certains révolutionnaires ont une conscience plus aiguë que d'autres de ce tournant. On peut penser à Rosa Luxembourg, à Bakou, qui est largement, dans un sens, Boukharine. Boukharine, dont vous avez déjà entendu que c'était une figure majeure des communistes de gauche. Pour eux, c'est depuis, du moins si on regarde le résultat de cette bifurcation, c'est de se dire que l'humanité s'est engagée dans une voie caractérisée tout à la fois, mais c'est lié par une dynamique, on peut qualifier d'expansion folle, mais également meurtrière, on a l'impression que ça mène à une impasse, et associé donc l'idée du discrédit total de l'idée même de révolution. Et ça, c'est vraiment l'héritage idéologique, dans un sens tel qu'il s'est forgé à la suite de la contre-révolution. Donc il est indispensable de comprendre la logique de cette bifurcation, non pas avec l'idée d'en décalquer des leçons, d'avoir des leçons toutes faites, ou de réexhumer le passé juste comme objet historique, hein, on redit ce qu'on est en propos de Marx, il faut laisser les morts enterrer leurs morts, mais bien l'objectif c'est de, en rediscutant ce qu'ont pu représenter les oppositions comme les communistes à gauche, de bien saisir ce qui a toujours existé à l'état de volonté émancipatrice inexpugnable, et qui se relie aux énergies de transformation révolutionnaire d'aujourd'hui, donc les relier à quelque chose de sain dans ce processus historique de longue haleine. C'est, je dirais, dans un sens, la bonne façon d'enterrer les morts, c'est de laisser les morts le faire, comme disait Marx, et on espère bien que les communistes de gauche nous rendent ce service en montrant qu'au cœur même de la révolution, et non plus dans des analyses a posteriori, etc., des éléments lucides, ou je dirais lucides par défaut, simplement contraints par les événements, contraints par le fait de penser vite, de penser l'essentiel de ce qu'il y avait à faire dans cette dynamique révolutionnaire, tous ces éléments ont réussi à voir aussi ce qui s'exprimait en tendance comme étant les risques de dégénérescence, et en particulier sur des éléments qui peuvent avoir été ouverts dans l'analyse que vient de donner Jean-Paul Lopéto à l'instant. Alors pour ça, donc, il y a deux dimensions qui ont été plus ou moins explorées, l'histoire l'histoire par en bas, l'histoire sociale, donc c'est le genre d'analyse qu'a amené Jean-Paul, et l'histoire des oppositions, et ça c'est l'élément qu'a amené Jean-Jacques, Marie, il me semble que c'est les deux appuis qu'il faut avoir pour comprendre ce que Rosa Luxembourg appelait la tragédie russe. Ce qu'on peut dire, c'est que ces histoires de l'opposition ont été très largement sous-représentées dans l'historiographie. Il y avait eu une première vague d'historiens avec Shapiro, Daniel S. Cohen, dans les années 60 à 70, qui avaient abordé ces questions-là, qui portaient des communistes de gauche. Mais disons que ça n'y a pas eu de reprise, si ce n'est donc à partir de 90, Ronald Kowalski, qui a fait des travaux spécifiquement sur le communisme de gauche, qu'on a pu utiliser. Alors, c'est pour ça qu'on espère que les textes eux-mêmes vont combler une lacune importante. Quel est le contexte? Alors là, je vais faire comme Jean-Paul, on ne va pas redonner tous les éléments, certains ont été donnés pour une historique sur comment on en arrive à la situation de 1918. Les communistes de gauche, comme le reste du parti bolchevique, on vient de le voir, s'inscrivent dans une authentique dynamique révolutionnaire, un renforcement d'emprise très importante de la social-démocratie dans la classe ouvrière russe en 17. Et ce sont parmi ceux qui rentreront dans cette opposition sont parmi les éléments les plus décidés, les plus volontaires, à la fois pour ce qui est du déclenchement de l'insurrection d'octobre, en particulier à Moscou, et pour ce qui est aussi de la constitution d'un gouvernement central de la légitimité complète de la révolution d'octobre. C'est ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui va permettre de poursuivre cette dynamique, à contrario de qu'est-ce qui l'a réduit à néant ou l'a fait péricliter. En quelque sorte, comme je l'ai mis dans l'avant-propos, ils essaient de mettre en. On a l'impression que toute leur activité est liée à la résolution d'une formule assez étonnante et très profonde de Marx, qui est qu'il faut faire en sorte que la révolution puisse atteindre son propre contenu. C'est-à-dire que la révolution se construit par la révolution, se construit dans les mesures qu'on prend dans la conscience de classe qui se développe dans le cours du processus historique. Là-dessus, armés de cette conscience-là, les communistes de gauche vont fondamentalement articuler leur divergence, ou l'expression de leur divergence, ou leur désaccord, etc., autour de deux axes. Le premier, c'est la défense d'un internationalisme intransigeant. Et le deuxième, c'est le fait que, pour reprendre aussi une formule, l'émancipation du travailleur doit être l'œuvre de la classe ouvrière elle-même, qui était celle de l'égalité, et que donc, dans toutes les mesures prises, qui doivent guider l'action des révolutionnaires qui se trouvent propulsés au pouvoir, pour faire simple, c'est de favoriser l'auto-activité du prolétariat, le développement de la conscience et l'initiative ouvrière, autant de choses dont on vient de voir qu'elles ont été très rapidement mises à mal. J'irais pour l'instant, on va le dire globalement, chacun se fera une idée en lisant, du fait des conditions ou des mesures prises. Alors, comme j'ai deux paquets de papier, ça ne va pas être simple. Ce qui est très clair, en tout cas, c'est que la connaissance qu'on a pu avoir des communistes de gauche est en général très marquée par le premier point, qui est celui internationalisme. Je dirais que tout le monde est internationaliste en 1718, tout le monde réclame la nécessité pour la révolution russe de briser son isolement, qu'elle ne peut s'en sortir qu'en conjonction avec la révolution dans les principaux pays industriels, au premier rang desquels, évidemment, les Russes regardent en premier vers l'Allemagne. Et ce qui va caractériser façon totalement différente des communistes de gauche, se dire que c'est un principe intangible et qui doit servir à trancher les décisions décisions terribles qu'a à prendre le pouvoir révolutionnaire dans les premiers mois. Et en particulier, le premier qui se pose et qui est celui sur lequel on a beaucoup jusque-là connu une position des communistes de gauche et qui leur vaut de se constituer en tant que fraction, c'est évidemment non seulement l'opposition au traité de Brest-Litovsk, mais avant cela, l'opposition à toute idée de négociation avec les impérialistes, quels qu'ils soient. Ça peut être donc l'opposition à la négociation avec l'état-major allemand, mais aussi avec les possibilités de compromis avec les alliés quand il va y avoir quelques appels du pied anglais ou français, et de dire que la caractéristique de la révolution prolétarienne est de ne s'appuyer uniquement sur les forces propres du prolétariat et d'en appeler uniquement à la solidarité internationale. Et donc il mise tout sur le fait que les conditions militaires s'aggravent ou sont l'invasion russe est défaite, ça remettra simplement entre les mains de la classe ouvrière internationale la responsabilité de poursuivre autrement la révolution ou d'aider le prolétariat russe. Et qu'en aucun cas, il ne faut que temporiser sur la dynamique révolutionnaire. De ce point de vue-là, les communistes de gauche affirment toujours la prééminence d'une mission définition historique du prolétariat. Ce n'est pas propre au communisme de gauche, évidemment, propre au mouvement ouvrier social-démocrate qui s'est constitué donc, depuis des décennies. Et ce qu'on dit, c'est que si on abandonne cette perspective, que sur le papier, alors, encore une fois, tout ça c'est des questions établies, parce que Lénine, ou la majorité, ou la direction du parti bolchevique, diront toujours qu'ils sont internationalistes, qu'ils pensent qu'il y a la révolution allemande, etc. Mais en même temps, ils disent voilà, il faut tenir compte des conditions, on doit toujours s'adapter à des conditions particulières qu'on n'a pas choisies, et donc il y a une certaine réelle politique, comme disent les bolcheviques de gauche, qui s'installe de la part du pouvoir russe pour, en gros, temporiser, essayer de gagner une trêve, etc. Alors, je vais finir par me perdre dans les notes, parce que si je ne bouge pas les papiers, ça n'arrivera pas. Voilà. Alors, donc, sur cette question internationale, la position des communistes de gauche est bien entendu donc opposition aux négociations, opposition aux traités, et souvent c'est caractérisé sous une forme caricaturale, parce que c'est souvent aussi comme ça que les a présenté, juste de l'apologie de la guerre révolutionnaire, de la guerre des partisans, etc. Ce qui est certain, c'est que les communistes de gauche vont développer une position extrêmement originale sur cette question, y compris militaire, qui est nous ne constituons pas une armée rouge, une armée prolétarienne de type classique, et plus encore, nous ne devons plus raisonner en termes de front militaire, de position à tenir, d'ancrage géographique du pouvoir bolchevique, du moins du pouvoir révolutionnaire. Il y a un article très important dans le communiste numéro 3, où le rédacteur explique que la force du prolétariat réside encore une fois en lui-même, et que on ne doit plus se voir le combat entre classes, pour la révolution mondiale en termes de localisation géographique, mais uniquement en termes de lutte de classe. C'était une pensée très originale, à un moment sera reprise par d'autres oppositions plus tard, mais en tout cas, c'est à ma connaissance la première expression aussi claire. Si je ne voulais pas vous lire beaucoup de choses, mais si je pouvais au moins vous lire celle-là, ça serait un extrait important. L'État bourgeois, comme organe de coercition de la majorité par la minorité, n'existe que parce qu'il détient un territoire, ainsi que tout l'appareil et les instruments de coercition. Le gouvernement des ouvriers et des paysans, lui, s'appuie sur la masse du peuple en lutte et ne cesse pas de gouverner lorsqu'il est privé d'une partie de son territoire. Il lui reste la maîtrise des moyens de lutte contre sa propre bourgeoisie et contre la bourgeoisie étrangère, à savoir la terreur populaire de masse. Bon, après sur la question de terreur, etc., mais vous voyez bien l'idée qu'il y a l'idée, je dirais, moins simple, moins simpliste que celle que je présente habituellement de l'opposition des communistes de gauche. Alors, du coup, oui, il faut déjà que j'aille très vite, parce qu'en fait, j'en suis virtuellement. Je ne vais pas balayer tous les aspects, encore une fois, il faudrait un temps fou pour cela. Mais ce qui est très important, c'est la cohérence de la critique des communistes de gauche telle qu'elle ressort à la lecture de tous ces textes. Alors, je réponds d'avance à certains. Effectivement, il y a des textes plus ou moins indispensables que d'autres, il peut y avoir des textes de circonstances, etc. Mais il y a une cohérence, hein, que ce soit sur l'illusion du répit induit par Prescott, sur la critique des mesures économiques. Hein, les communistes de gauche placent toujours du point de vue des exploités. Une approche assez radicalement différente de la majorité, hein, où l'idée de restauration du capitalisme ou de contre-révolution dans tous les débats. Et la question, c'est de savoir quels en seront les facteurs décisifs. Et pour tous, évidemment, il y a le renforcement possible du pouvoir assuré par les armées allemandes, parce qu'on a la réelle réaction qui s'organise. Mais pas seulement Lénine, lui, pense que, après avoir pensé que le futur était déjà fait, d'ailleurs, de ce point de vue-là, que tout le principal risque viendra de la petite économie paysanne, de l'esprit petit bourgeois, du laisser-aller russe, de l'absence de discipline des ouvriers, etc. Et les communistes de gauche, justement, n'ayant pas ces éléments, ne le placent pas au même niveau. Ce sont probablement les seuls à ce moment-là qui disent que l'État, bien plus sûrement, sera le fer de lance de la contre-révolution s'il transige avec la question de la solidarité internationale, encore une fois, ou de laisser l'initiative ouvrière. Je vous lis un exemple de citation à contrario de ce que peut dire Lénine à ce moment-là. Pour se moquer des communistes de gauche. Si je vous retrouve la citation très rapidement, elle est importante. Alors, je vais vous la retrouver. Voilà, elle est là. L'évolution vers le capitalisme d'État. Parce que, donc, encore une fois, tout le monde n'a pas forcément entendu. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je voudrais lire un petit extrait là-dessus. L'évolution, c'est Lénine qui parle. L'évolution vers le capitalisme d'État. Voilà le mal, voilà l'ennemi que l'on nous invite à combattre. Et donc ironique. Hein. Et bien, quand je vois désigner de pareils ennemis dans le journal des communistes de gauche, je demande, qu'est-il arrivé à ces hommes? Comment des bribes de livres peuvent-elles leur faire oublier la réalité? La réalité dit que le capitalisme d'État serait pour nous un pas en avant. Si nous pouvions en Russie réaliser sous peu un capitalisme d'État, ce serait une victoire. Comment peuvent-ils ne pas voir que le petit propriétaire, le petit capital, est notre ennemi? Et là, on voit tout le renversement, je dirais, tout le strabisme historique qu'il peut y avoir de la part de Bolchevique, et pas du moins, puisque c'est Lénine qui parle. Car c'est bien tout de même de l'État, principalement, que viendra la contre-révolution. Le mythe des conditions et matérielles élémentaires, c'est-à-dire le capitalisme renaissant sur la base de la petite propriété individuelle, du petit commerce, du petit échange, etc., non seulement en retard de quelques siècles en regard du développement du capital moderne, ce qu'a très bien vu Karine dans ses analyses de l'État pendant la Première Guerre mondiale, mais il n'est même pas dit de toute façon que ce soit réellement ça les conditions de surgissement du capitalisme qui est dès le début très lié à des mesures prises par l'État. Donc j'avais dit que je ne vous ferais pas beaucoup de citations. Donc la correspondance de la critique, c'est donc sur les mesures économiques, sur l'organisation du travail, c'est fondamental, c'est à peu près les seuls qui parlent de ça, de quelle initiative laisser à la classe ouvrière, comment s'organise la production, le fait de ne pas dissocier domination et exploitation, même ça peut être traversé effectivement de tout ce qui est ressenti contre les spécialistes, contre les formes de savoir comme il a été mentionné, etc. Mais en tout cas, vraiment cette volonté de dire, dans tous les problèmes, il faut qu'il y ait une initiative ouvrière qui soit à la source de ce qui se fait. On va juste faire une petite citation.
C'est la dernière.
C'est la dernière citation, après je dirai sur deux conclusions. Là.
Non, excusez-moi, je vais intervenir parce que...
Ouais, ça fait 23 minutes. Ouais. En posant la question ainsi, nous faisons confiance à l'instinct de classe, à l'initiative du prolétariat. La question ne peut être posée autrement. Si le prolétariat ne sait pas comment créer les conditions nécessaires à la révolution socialiste du travail, personne ne peut le faire à sa place et personne ne peut l'obliger à le faire. Le bâton, s'il est levé contre les travailleurs, se trouvera dans les mains d'une force sociale qui sera soit sous l'influence d'une autre classe sociale, soit dans les mains du pouvoir soviétique. Le pouvoir des soviets sera alors obligé de s'appuyer contre le prolétariat sur une autre classe, par exemple la Bélarusie, et par lui-même. Et par là même, il se détruira lui-même en tant que dictature du prolétariat. Encore une fois, par rapport à toutes les visions, il fallait, entre guillemets, un coup ou quelque chose d'extérieur qui vienne dénaturer le pouvoir soviétique dans toutes les par exemple, beaucoup celle de Trotsky, etc. Les communistes de gauche sont vraiment ceux qui insistent le plus sur le caractère de processus interne qui peut réaliser ça. C'est pas pour faire l'apologie des communistes de gauche, il y a beaucoup d'angles morts, leur vision de la vie dans les soviets qui reste plus faible que celle que ce que peut représenter le parti, etc. leur culte qui commence à se créer à ce moment-là avec Brestitov sur l'unité du parti qui va devenir quelque chose qui va largement contribuer à étouffer les débats par la suite. Voilà, ils ne sont pas, je dirais, toujours plus à la pointe là-dessus. Là où ils sont plus à la pointe, c'est clair, j'ai eu le droit aux citations, mais vous lirez l'article de Sauvé dans le numéro 4, c'est tout ce qui est compréhension de des processus qui font que va se créer une bureaucratie, que les couches se privilégiées vont se reconstituer, etc. Autre amplement, c'est la répression, bien sûr, hein, parce que on a entendu là, des éléments sur les appels à la grève de juillet, sur les mouvements à la base qui peuvent se faire. De la même façon, les communistes de gauche n'auront pas d'état d'âme vis-à-vis de la répression des anarchistes et de la liquidation des centres anarchistes à Moscou. Karine toujours là-dedans assez dur contre eux. Ils se disent ceci aussi, bien entendu, des serfs de gauche, qui partagent pourtant beaucoup de positions au début, mais à trois ou quatre endroits, vous trouverez que la différence des serfs avec les serfs de gauche, c'est qu'ils disent « Ok, nous sommes absolument contre le traité de Brest-Litov, ça crée des conditions qui vont être très négatives pour la révolution russe, mais on ne fait pas comme s'il n'était pas là, et maintenant il faut se battre dans le contexte où on est. Ouais, » donc, et en particulier, ils sont contre le sabotage et les provocations qu'essayent de faire les socialistes révolutionnaires de gauche, au travers d'attentats, etc., pour relancer le combat. Plus fondamentalement, on peut passer sur ces enlèvements-là, mais plus fondamentalement, les communistes de gauche sont en cohérence avec ce qu'ils disent en 1917. Ça, c'est quelque chose qui transparaît de tout leur texte. Ils font en creux la critique suivante à l'ennemi. Ils disent, si tout ce qu'on a pu dire en 17 était vrai, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que ça soit faux? Pourquoi tous nos mots d'ordre seraient devenus obsolètes? Ou est-ce qu'il fallait les comprendre comme des mots d'ordre de circonstance, etc. Ce à quoi ils ne peuvent pas se résoudre. C'est-à-dire que les circonstances, la réalité, qui est toujours l'ultima ratio du conservatisme, ne sont pas eux-mêmes le fruit du hasard, bien sûr. En gros, Et ils essayent bien de s'en démarquer, les communistes de gauche, on a l'impression que, je veux dire de façon un peu comique, disent, mais finalement, alors sinon, c'est les mencheviks qui avaient raison quand ils disaient que le coup d'État bolchevique était une aventure, que les conditions matérielles n'étaient pas là, etc. Bon, ça je vous indique, moi je vous fais la critique suivante, hein, c'est que sur cette question de la réalité, la révolution communiste, elle fondée sur le développement de la conscience de classe, et donc, selon l'expression classique, de favoriser la liberté sur la nécessité. Et si le processus reste toujours piloté par la nécessité, alors ce sont toujours les conditions propres au capital qui tendent à s'imposer. Bon, malgré tout,
il faut conclure.
Il faut conclure. Donc, il faut tout en bas, continuer, on ne parlera pas d'Allemagne. Dans cet espace de discussion qu'il y a sur ces quelques mois et qui ne s'ouvrira plus avec une telle liberté, hein, dans l'urgence du moment, encore une fois, se cristallise le positionnement qui exprime en tendance des options radicalement différentes. Parce que les problèmes se reposeront avec la NEP, avec la question des fractionnements de parti, avec le cours nouveau de Trotsky, qui est parti sur la question des nouvelles générations. Les communistes de gauche, pour la plupart, participeront aux diverses oppositions qui suivront. C'est une histoire qui reste à poursuivre. Vous en avez eu un large aperçu avec la présentation de Jean-Luc Marie. Mais il faut donc voir au-delà des militants et de leur trajectoire individuelle, pour voir ce qu'ils vont exprimer de la compréhension du processus révolutionnaire. Et là-dedans, ces processus, souvent très largement en gestation simplement, les communistes de gauche mettent le doigt avec une patience étonnante sur les éléments les plus déterminants de la révolution du processus révolutionnaire, qui aboutit à la consolidation de l'État russe, qui sera un des éléments majeurs comme fossoyeur de la révolution mondiale pour la suite. Merci.
Alors, on les écoute.